un très bon dimanche et tous mes souhaits pour une très bonne et heureuse année 2017. Et veo la familia Suaza, está con nosotros esta mañana. Buen domingo. Que el Señor vous bendiga ricamente. Amen. Alors, oui, comme j'étais en train de dire, oui, un très bon dimanche. Bonne et heureuse année à vous tous 2017. Mais en disant cela, j'aimerais ajouter que j'aimerais vous avertir aussi, c'est bien de faire des bons souhaits au début d'année. Mais mes bons souhaits ne vont pas nécessairement changer de croix dans votre vie. Êtes-vous d'accord? C'est tout à fait normal. Et c'est pourquoi les gens qui veulent avoir des changements, prennent d'habitude des résolutions. Et selon les statistiques, les top 10, et je vous les nomme, sont perdre du poids, sortir de la dette ou vice-versa, économiser plus d'argent, se mettre en forme, manger santé, manger bio, apprendre des choses nouvelles, diminuer le stress, faire un voyage, n'importe où, mais faire un voyage, se porter volontaire aussi pour aider les autres, faire du bénévolat, cesser de fumer si c'est une problématique, et aussi, pour quelques-uns, réduire la consommation d'alcool. Alors, comme vous savez, ce sont toutes des bonnes résolutions, mais encore une fois, selon les statistiques, les gens qui prennent ces résolutions, 3 sur 4, vont les briser. Et parmi ce nombre-là, une personne sur 3 ne dépassera même pas la fin du mois de janvier avant de les avoir brisés. Alors, on pourrait se poser la question ce matin, comment se fait-il que malgré nos bonnes résolutions, que nous ne sommes pas capables justement de garder ces résolutions. C'est quoi la problématique? Et j'ai lu quelque chose qui était assez intéressant, je vous le cite. Pourquoi est-ce que, malgré nos bonnes intentions, nous arrivons au début d'une année avec le même bagage que nous avons transporté avec nous l'année précédente? Une très bonne question, ça fait réfléchir. Nous arrivons au début d'une année et nous ne sommes pas plus avancés dans notre marche, que ce soit notre cheminement, que ce soit physique, social, spirituel, que nous l'étions l'année précédente. La date a changé, mais la destination reste la même. Nous allons nulle part. Ou pire encore, nous pourrions être en train de faire marche arrière. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi quelqu'un a bien dit, ce dont nous avons besoin au début d'une année, et surtout de cette année 2017, ce n'est pas une résolution, mais plutôt une révolution. Et c'est pourquoi l'équipe pastorale, nous avons penché là-dessus, et nous avons préparé cette semaine, aujourd'hui et pour les 2 semaines à venir, et une nouvelle série de messages intitulée « Élargissez votre cœur ». Et je vais vous donner le contexte avant de plonger nos regards dans ce texte. Je vais vous donner le contexte justement et d'où ça vient. Alors, cette exhortation se trouve dans le 2e épître de Paul aux Corinthiens. Et Paul, le père spirituel des Corinthiens, est en train de leur écrire. C'est sa 2e lettre. Mais c'est une lettre tout à fait différente de la 1ère lettre. Dans cette 2e lettre de Paul aux Corinthiens, on pourrait dire que la lune de miel entre le Père spirituel et ses enfants spirituels est terminée. Et là, il y a des relations difficiles maintenant qui entrent en jeu. Et même les Corinthiens sont en train d'accuser l'apôtre Paul de ne pas être un vrai apôtre. Et ce que Paul dit, alors il prend sa plume, il va écrire la deuxième lettre aux Corinthiens, il va défendre son apostolat. Et à travers cette défense, il va corriger le tir, mais aussi il va pointer le droit aux vrais bobos. Il va leur dire pourquoi maintenant ces Corinthiens, son attitude à son égard avait changé, et c'est pourquoi aussi ils étaient en train de prendre des mauvaises décisions à son égard. Et qu'est-ce qu'il leur dit, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 6, pas besoin d'y tourner, mais il leur a dit, votre cœur s'est rétréci à mon égard. Votre cœur s'est rétréci. C'est pourquoi vous avez justement cette mauvaise attitude à mon égard et vous prenez des mauvaises décisions à mon égard. Alors qu'est-ce que il leur apporte comme solution? Élargissez votre cœur. Élargissez votre cœur. Et ça, justement, je veux prendre alors cette exhortation pour l'appliquer à nous en 2017 face justement à notre cheminement spirituel. Et je pense qu'une des facteurs principaux du fait que nous pouvons stagner dans notre cheminement, dans notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Ce qui nous incite et qui nous pousse à prendre des mauvaises décisions et parfois d'avoir une mauvaise attitude, c'est un cœur qui est rétréci. Alors pour corriger cela, ça nous prend un cœur qui est élargi. Mais comment faire cela? Quels sont les premiers pas à entreprendre si nous voulons avoir justement un cœur élargi? Un cœur maintenant qui va nous permettre à avancer, à cheminer dans notre marche avec le Seigneur. Et justement contrer cette tendance de rester sur place ou bien d'être rétrograde. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et on va aller dans le livre de Genèse au chapitre 15. Genèse chapitre 15, et nous allons lire les versets 1 à 11, et j'ai intitulé ce message « La foi sans limite ». La foi sans limite. Alors, le but de ce message, c'est de répondre à cette question, comment pouvons-nous maximiser chaque année que Dieu nous donne pour atteindre notre plein potentiel, être ce que Dieu veut que nous soyons et faire ce que Dieu veut que nous fassions. Élargissez votre cœur. Ayez une foi sans limite. Et ça a été mentionné ce matin lors du repas du Seigneur. On voudrait être des hommes et des femmes que Dieu veut que nous soyons en 2017. Alors, voici une manière de faire cela. Alors, Genèse chapitre 15. Et nous allons lire au verset 1er jusqu'au verset 11. « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Et ce matin, j'aimerais vous laisser, en regardant ce texte, la foi sans limite, j'aimerais vous laisser avec 4 aspects d'une foi sans limite, tirés justement de la parole de Dieu, tirés de ce récit d'Abraham avec son Dieu. Et la première chose que j'aimerais que vous remarquiez, c'est que la foi sans limite focalise sur Dieu et non pas sur la problématique. Une foi sans limite qui est justement un indice d'un cœur élargi focalise sur Dieu et non pas sur la problématique. Et dans notre texte que nous voulons de lire, Abraham est devant, son nom il va devenir Abraham plus tard, mais dans le texte ici c'est Abraham. Il va devenir justement, il est devant une problématique. Une problématique du passé. Il n'y a pas de postérité. Et nous, ça, il a dit cela à Dieu, tu ne m'as pas donné de postérité, je n'ai pas d'enfant. Et nous savons pourquoi dans Genèse chapitre 11, verset 30, le texte nous dit qu'Abraham avait pris une femme, Saraï, mais son épouse était stérile, elle n'avait point d'enfant. Alors, dans ce contexte-là, Abraham aurait pu avoir un cœur rétréci à l'égard de Dieu. Tu as permis que je me marie, j'ai trouvé une femme, mon désir c'est d'avoir une postérité, et voilà où est-ce que je suis rendu, voilà mon passé, voilà ce qui m'handicape dans ma marche avec toi, et ça aurait pu pousser cet homme d'avoir une mauvaise attitude et prendre les mauvaises décisions. Alors son passé n'était pas très luisant. Deuxième chose aussi, c'était le présent non plus, il n'était pas luisant. Parce qu'il va dire à Dieu, je m'en vais sans enfant. Ici, Abraham a 85 ans, son épouse a 75 ans. Et le fait qu'il dit, je m'en vais sans enfant, me fait réfléchir que probablement il est en train de dire, mais écoute, c'est presque terminé pour moi. Je suis par un jeune ado maintenant, plein de vie, plein d'espoir, plein de rêves. Je suis rendu à 85 ans, un vieux pépin, c'est fini, c'est terminé. Alors, son présent aussi, comme je dis, n'était pas très luisant. Mais la foi sans limite focalise sur Dieu et non pas sur la problématique. Alors, voilà pourquoi Dieu va lui dire. Dieu va détourner ses yeux de son passé. On pourrait dire comme quand on pense au baseball, hein, prison, passé, présent, prise 2, et bientôt prise 3. Mais Dieu va dire non. Il va détourner le regard d'Abraham de son passé. Il va détourner ses regards de son présent. Et il va maintenant dire, Abraham, ok, je sais que c'est ça ton passé. Je sais que c'est ça ton présent. Mais, regarde-moi, je suis le Dieu du passé, je suis le Dieu du présent, mais je suis aussi le Dieu du futur. Et je peux changer ta situation. Alors, détourne tes yeux, Abraham, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier, focalise sur moi. Et là, Dieu va lui donner maintenant des promesses. Ta récompense sera, voyez le temps du verbe, futur. Celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier et telle sera ta postérité. Alors, la foi sans limite, si on veut justement avoir un cœur élargi pour prendre des bonnes décisions et de ne pas rester stagnant dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, on focalise sur Dieu et non pas sur la problématique. Et je ferai les applications au fur et à mesure que nous avancions. Vous savez, il est très facile et il est aussi probable que ce matin, que quelques-unes de vous, parce que c'était vraiment une tendance à combattre. Je ne connais pas votre passé. Je ne connais pas votre présent. Mais je sais une chose, si on focalise sur le passé, qu'est-ce qui aurait pu être? Aussi, même si notre présent maintenant est pas très, très beau, et on focalise là-dessus, on va avoir des difficultés. Ce matin, si vous êtes dans une telle situation, vous avez une passé qu'on voudrait oublier. Vous avez une présent qui maintenant est difficile et remplie de douleur peut-être. Ce matin, la parole de Dieu, et Dieu est en train de vous le dire, regarde vers moi. Je suis ton bouclier. Pour Abraham, dans ce contexte, oui, Dieu était un bouclier pour lui. Et dans n'importe quel contexte que vous vous trouvez, que nous nous trouvions ce matin, nous pouvons toujours trouver en Dieu ce dont nous avons besoin pour le moment présent. Qu'importe le passé, qu'importe le présent. Et vous savez, je vous donne quelques illustrations. La parole de Dieu nous donne une illustration du roi Josaphat. Un roi d'Israël, un roi intègre, un homme, un roi qui marchait avec Dieu. Et malgré cela, il y a une armée, il y a des armées qui viennent maintenant attaquer Israël. Et la parole de Dieu nous dit que cet homme a eu une grande frayeur, mais dans cette frayeur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne focalise pas sur la problématique. Il va focaliser sur Dieu. Et il va dire ceci, car nous sommes sans force. Devant cette grande multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et à cause de cela, Dieu va donner une victoire éclatante. Et vous savez, la même chose, c'est pour nous. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12:2, et j'ai pris la version français courant, gardant les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Qu'importe la situation, comme j'ai dit tantôt, que nous nous trouvons, si nos yeux sont sur le Seigneur, nous pouvons avancer dans cette marche avec lui. Et vous savez, ce que le Seigneur nous demande jamais de faire quelque chose que lui-même n'a pas modelé pour nous. Parce que dans ce même texte, je ne l'ai pas écrit, dans le même texte, le texte nous dit que quoi? Jésus, en réserve de la joie qui lui était réservée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enduré la croix. Il a méprisé l'ignominie et est assis à la droite de Dieu. Alors, dans la même situation difficile, où est-ce que Christ aurait pu focaliser sur la croix et dire, ah, ça me quelque chose, pour être capable justement de surmonter cette problématique, il focalisait pas sur les souffrances et tout ce que ça a amené, il focalisait sur la joie qui était réservée. Alors, il nous dit la même chose ce matin, à une foi sans limite, focalise sur Dieu et non pas sur la problématique. Et si Dieu voulait ce matin, savez-vous que nous, chacun de nous, nous pourrions même marcher sur les eaux? Parce que je pense à Pierre. Pierre, le Seigneur a dit, viens vers moi parce qu'il y avait cette tempête et ainsi de suite. Et qu'est-ce que Pierre a pu faire? Marcher sur les eaux. Mais comment? En regardant Jésus. Et le texte nous dit que le moment qu'il a vu que le vent était contraire et ainsi de suite, là, comment est-ce qu'il a su? Il a su cela parce qu'il a arrêté de regarder de Christ. Il a commencé à regarder ailleurs. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est enfoncé. Mais le Seigneur est tellement gracieux. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur a tendu sa main. Mais juste pour vous dire que le moment que nos yeux sont sûrs de Christ, on est capable de faire des exploits. Alors, une fois sans limite, focalise sur Dieu et non pas sur la problématique. Deuxième chose dans ce texte que je vois, une foi sans limite, croire en les promesses de Dieu malgré les circonstances. Une foi sans limite, indice d'un cœur élargi, va justement croire en les promesses de Dieu malgré les circonstances. Et Dieu va dire quelque chose à Abraham dans Genèse 12:2. Il avait déjà dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Ça, c'était une promesse que Dieu a fait au début, quand il a dit, Abraham, quitte ta pays, Ur de Chaldée, et va-t'en dans un pays que je te montrerai. Et il fait une promesse. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et là, maintenant, cette promesse est réitérée dans Genèse chapitre 15. Dieu revient à la charge, il va dire, regarde vers le ciel. Regarde les étoiles, si tu peux les compter, mais telle sera ta postérité. Et quelle est la réaction d'Abraham? Ça fait des années là, qui se sont écoulées depuis ces promesses. Et le texte nous dit que Abraham eut confiance en l'Éternel, malgré les circonstances. Malgré le fait que sa femme était stérile, malgré le fait qu'il lui était avancé en âge, malgré le fait que, et ainsi de suite, il a eu confiance en l'Éternel parce que c'est Dieu qui l'avait dit. Et la question alors qu'on doit se poser ce matin, et que je me pose et je vous pose, Dieu est-il digne de confiance? Est-ce que nous pouvons nous confier en ses promesses? Et en faisant cette recherche, j'ai trouvé une petite peculiarité en ce qui concerne la langue anglaise et la langue française. Si vous prenez un dictionnaire, vous allez voir que les mots sont placés en ordre alphabétique. Alors, si vous commencez des A, tous les mots qui commencent avec A sont là avant les mots qui commencent avec B. Et même à l'intérieur des mots, il y a aussi un ordre A, ensuite B, ainsi de suite. Et dans la langue anglaise, nous avons le mot trust et nous avons le mot truth, le TH, truth. Okay? Et là, vous avez, ça c'est confiance et vérité. Et si vous prenez un dictionnaire et vous regardez justement l'ordre des mots, trust, bien juste avant truth. Tu peux ajouter qu'il y a des petits mots là, trustworthy, trustful, et ainsi de suite. Mais la racine est la même. Et tout de suite après ce mot-là, c'est le mot truth. Il n'y a aucune autre lettre qu'on peut placer pour faire un mot qui a du sens. Et je pense que Dieu est en train de nous faire un clin d'œil. Désolé pour les francophones. Mais à travers la langue anglaise, que la confiance est basée sur la vérité. Et ce matin, comme Abraham, nous pouvons faire confiance dans les promesses de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de vérité. Et c'est ce que le texte nous dit dans Deutéronome 32, 4, c'est un Dieu fidèle, de vérité, et sans iniquité, il est juste et droit. Et dans Ésaïe 65, 16, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et en hébreu, vérité, c'est le mot Amen. Amen. Alors quand Dieu dit dans Jean 3, 16 qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-tu la vérité? Oui. Et nous pouvons dire Amen à cela. Dans Jean 14, quand Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parce que Dieu, c'est un Dieu de vérité, nous pouvons aussi dire Amen à cela. Et dans Hébreux 13, 5, quand Dieu va dire à nous, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, parce que c'est un Dieu de vérité, nous pouvons dire aussi Amen à cela, parce que c'est un Dieu qui ne ment point. Alors, ce sont des promesses de Dieu. Il a donné une promesse à Abraham. Et pour chacun de nos situations de la vie, vous avez une promesse dans la parole de Dieu. Et je aimerais vous encourager, si vous êtes dans une situation difficile, de chercher, demander au Seigneur de vous éclairer, de vous illuminer, de vous donner un texte qui va répondre à ce besoin sur lequel vous pouvez vous appuyer et dire « Amen, j'y crois parce que Dieu l'a dit. » Ici à l'apôtre Paul, qui était dans une situation difficile. Il s'en va à Rome, il y a un naufrage, et là, c'est désespéré. Et Paul va dire ceci, j'ai cette confiance en Dieu qui me sera fait comme cela m'a été dit. Et un autre texte aussi qui est intéressant, dans une situation difficile, que moi, souvent, je l'applique quand je lutte souvent avec une certaine insécurité, comme je vous ai déjà partagé. J'aime être en contrôle de la situation. Et quand je suis hors de mon zone de confort, mais je panique. Mais le Seigneur, il me ramène souvent à ce texte. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard anxieux. Vous voyez le lien? Focaliser sur Dieu. Et quand on focalise par ce Dieu, qu'est-ce qui arrive? Nos regards se promènent. Et Dieu dit non, fais pas cela, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et parce que Dieu est un Dieu de vérité, nous pouvons dire amen à cela. Et ce texte a été, je suis certain, un secours, un soutien pour plusieurs d'entre vous, comme il a été aussi pour moi-même. Alors la foi sans limite croit en les promesses de Dieu, malgré les circonstances. Troisièmement, la foi sans limite, indice d'un cœur élargi, attend le timing de Dieu. Attend le timing de Dieu. Dans le texte, Dieu va dire à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Genèse 12, 2. Il avait 75 ans, même peut-être moins. Parce que quand il est sorti de son pays de Ur en Chaldée, on voit qu'il est arrêté à Charan. Et là, on ne sait pas combien de temps il est resté là, mais il avait 75 ans quand il a quitté Charan. Et là, Dieu avait dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Et là, maintenant, dans Genèse 15, trois chapitres plus tard, Abraham a 85 ans, et Dieu revient à la même promesse, je garde vers le ciel, je vais te bénir, je vais faire de toi une grande nation, et telle sera ta postérité. Dieu avait-il oublié ses promesses pendant ces longues années? Et vous savez, ça c'est une problématique qu'on rencontre assez souvent. Quand on a une promesse de Dieu pour une certaine situation, et je parle d'une promesse spécifique en ce qui concerne quelque chose dans notre vie. Le timing de Dieu. Et faut se rappeler que quand Dieu agit, nous, on voudrait avoir cela hier, comme on dit, n'est-ce pas? Mais Dieu va dire ici que mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a pas, quand il a fait la promesse tout de suite à Abraham à 75 ans, là, c'est fait, il y avait le pouvoir, il y aurait pu le faire. Mais là, il y a 85 ans, il fait la promesse, et si vous lisez encore, Genèse chapitre 16, 17, 18. Quand le fils de la promesse est né, il y a 100 ans. Alors, ça prend encore du temps. Je vous dis, le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Et nous avons un exemple classique de cela dans la vie de Moïse. Moïse est en Égypte. Les frères de Moïse et ses sœurs, ses compatriotes sont tous des esclaves. Lui, il a été élevé dans la maison, le pharaon, il est prince d'Égypte, comme vous avez vu. Et là, à 40 ans, peut-être Dieu lui a parlé, il a cette conviction. C'est moi qui serai le libérateur de mon peuple. Alors, qu'est-ce qu'un libérateur fait? Il s'en va libérer le peuple. Alors, il s'en va à l'extérieur, il voit un Égyptien qui frappait justement un Israélite, puis là, il a tué l'Égyptien, puis caché dans un sac. Le lendemain, il retourne, il voit deux Israélites qui se battent. Il dit, oh, ne faites pas cela, vous êtes frères. Et là, il y a un qui dit, mais qui t'a établi maître et juge sur nous? Et dans Actes chapitre 7, Étienne, qui parle à Sandra, nous donne justement, derrière cela, Moïse pensait. Vous voyez comment est-ce que les voix de Dieu ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. Lui, il pensait à 40 ans que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne compriaient pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Le timing de Dieu n'était pas là. Et qu'est-ce qui arrive? Il s'en va dans le désert, il faut qu'il attende un autre 40 ans. Et quand c'était le temps, mais Allah, il a trouvé un paquet d'excuses. Il ne voulait pas y aller. Mais quand même, le timing de Dieu n'était pas, pas notre timing. Et finalement, à 80 ans, il est devenu justement le libérateur du peuple d'Israël. Quelqu'un a bien dit, c'est comme si Dieu vit dans un fuseau horaire, et nous vivons dans une autre. Et la seule chose, c'est qu'on est plus à l'est, et Dieu est plus à l'ouest. Alors, pour nous, il est toujours en retard, mais c'est jamais comme ça. Le timing de Dieu est parfait. Et j'aimerais vous encourager, peut-être ça fait des années, ça fait des mois, ça fait, je ne sais pas depuis combien de temps, dans le contexte des conjoints, peut-être des enfants, vous suivez le Seigneur, vous avez élevé vos enfants, peut-être vous êtes marié avec une personne qui n'est pas sauvée, vous êtes venu au Seigneur après, et là ça fait des mois, des semaines, des années que vous priez pour cette personne, et rien qui se passe. J'aimerais vous encourager, le timing de Dieu n'est pas le nôtre. J'aimerais vous encourager avec une citation de George Mueller. Il a dit ceci: la chose la plus importante est de ne pas cesser de prier avant d'avoir reçu la réponse. J'ai passé 52 ans à prier tous les jours pour deux hommes, le fils d'un ami d'enfance. Ils ne sont pas encore convertis, mais j'espère qu'ils le feront. Et l'histoire nous raconte que le jour de ses funérailles, il est mort à 90 ans, cet homme. Il y a une de ces personnes qui s'est convertie, et quelques mois après, la deuxième s'est convertie. Le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Il n'a pas vu cela de sa vie, mais il a persévéré dans la prière. Et j'aimerais vous encourager aussi de persévérer et attendre justement le timing de Dieu. Et quatrièmement, je termine avec cela, la foi sans limite obéit à Dieu un pas à la foi. Et là, ici, il y a quelque chose qui semble clocher. Là. Okay? Le Seigneur lui a dit, écoute, je vais te donner une postérité. Alors, pour avoir une postérité, il faut y avoir un enfant. Et quand on dit enfant, mais tout de suite ça tourne dans la tête, là, et c'est préparatif. On va chercher une bassinette, puis on va chercher des doudous, puis des toutous, puis des soussus, puis tout ça. Puis on va se préparer. Et là, l'Éternel lui dit, non. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, une bélier de 3 ans, et puis si, faire un sacrifice, puis... Ce que Dieu demande à Abraham de faire n'a rien en commun avec la promesse d'un fils. Abraham, il n'y a pas la moindre idée qu'est-ce que Dieu veut. C'est quoi le rapport, comme on dit en bon québécois? Et Dieu non plus, il dit rien de plus. Mais la foi sans limite obéit à Dieu. Un pas à la foi. Et là, Abraham, il y a un choix. Il peut obéir, il peut aller chercher les animaux, puis comme on voit qu'il a fait, mais il y avait ce choix devant lui, là, aller chercher, préparer le sacrifice et ainsi de suite. Ou bien il pourrait dire, écoute, hey, Dieu, tiens, une minute, là, on est en train de parler fils, c'est quoi le rapport, là? Ça, c'est pas attendre. Pour moi, c'est plus important, juste là, d'avoir mon enfant que tu as promis, j'ai attendu longtemps. Hey, fatigué, je t'en ai d'attendre, hein, fais quelque chose. Mais non, il obéit, puis justement, il va faire ce que Dieu lui demande de faire. Et quelqu'un a dit ceci, je cite, « Pour ceux qui cherchent à faire la volonté de Dieu, cela peut être une occasion de chute. Le fait de faire quelque chose qui semble pas être en lien avec ce que Dieu demande de faire, il méprise les choses présentes en faveur des choses lointaines. Et à cause de cela, il néglige les devoirs et les responsabilités d'aujourd'hui parce qu'ils sont en train de rêver à un lendemain plus prometteur. » Abraham aurait dû découvrir, ah wow, tiens, mon fils, il s'en vient, c'est le fils de promesse, c'est sauf. Mais Dieu n'est pas comme cela. Dieu est en train de nous amener vers quelque chose. Oui, je ne sais pas c'est quoi le plan pour votre vie. Mais en attendant, il y a des choses pratiques tous les jours que Dieu nous demande de faire. Et la foi, sans limite, prend le prochain pas. Même si ça n'a pas rapport avec ce qui s'en vient, c'est Dieu. Et si Dieu révèle quelque chose pour ici, mais néglige pas nos responsabilités de tous les jours, justement, parce qu'on est en train de rêver d'une situation qui est meilleure. Alors, Abraham va obéir à Dieu. Il va prendre les animaux et il va les couper et ainsi de suite. Et j'ai écrit ici, nous ne serons pas préparés pour faire ce que Dieu veut que nous fassions demain avant d'avoir fait ce qu'il nous a demandé de faire aujourd'hui. Tellement important. 99% de la vie consiste en effet du train-train quotidien, la routine, la même chose jour après jour. Mais à travers cela, Dieu, tel un habile tisserand, est en train de tisser un motif invisible qui un jour nous conduira dans une nouvelle direction. Nouvelle direction qui aura été la somme de tous les petits pas d'obéissance. Alors, la foi sans limite dans cette relation où on marche avec Dieu prend le prochain pas. Qu'importe ce que c'est, qu'importe où cela conduit, parfois cela n'aura pas de sens. Parfois cela aura du sens, mais c'est le pas qu'il faut prendre si nous allons faire la volonté de Dieu. Hudson Taylor, un grand missionnaire à l'intérieur de la Chine, à un moment donné dans sa vie, il y a eu ce qu'on appelle la rébellion boxer. Ça, c'était le nom. Mais à l'intérieur de cela, il y avait justement un mouvement contre les missionnaires. Et on capturait les missionnaires et on les exécutait, on les tuait. Et dans une grande agonie, justement, d'âme, il a dit ceci dans son journal, et j'ai fait la traduction en français. When I cannot read, when I cannot think, when I cannot even pray, I can trust. Quand je ne peux pas lire, parce qu'il était tellement bouleversé par qu'est-ce qui se passait. Quand je ne peux pas penser, quand je ne peux même pas prier, mais au moins je peux faire confiance. Je ne comprends pas, un peu comme Abraham, mais je peux faire confiance dans le Dieu qui sait où est-ce qu'il s'en va. Alors, la question qui reste ce matin, que j'aimerais que vous reteniez de tout ce que je vous ai dit, Dieu est-il digne de confiance? Et j'ai eu un petit flash ce matin en me préparant. Je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint. Mais j'aime donner des petites choses qui nous aident des fois à nous rappeler. Même si tu ne comprends pas pourquoi, exerce de la foi, car c'est le meilleur choix. Même si tu ne comprends pas pourquoi, exerce de la foi, car c'est le meilleur choix. Et si vous êtes ici ce matin, j'aimerais vous laisser aussi avec le choix d'Abraham avec. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, qu'est-ce que Dieu aimerait ce matin que vous fassiez à son égard? Mais la première chose, c'est de focaliser sur Dieu. Pas sur Bouddha, pas sur Krishna, pas sur des choses de ce monde qui sont éphémères. Focalise sur Dieu pour votre avenir, pour votre salut, parce que c'est en lui qui se trouvent les sources de la vie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, le salut se trouve en Jésus-Christ. Focalise sur le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, comme Abraham, il fallait qu'il fasse, si vous ne connaissez pas le Christ, la Bible vous demande de croire, simplement de croire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois que Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils mourir à votre place, à ma place, par amour. Payer la dette de nos péchés Et sur la croix, il a satisfait aux exigences de Dieu en ce qui concerne le péché. C'est payé. Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Et croire cela, la parole de Dieu nous dit que nous avons la vie éternelle. Obéir. Parce que la foi, ce n'est pas d'obéissance. Obéir, justement, à la parole de Dieu. Et quand je mets ma foi dans ce que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ est que le Seigneur Jésus-Christ a fait plutôt, je suis en train d'obéir à la parole de Dieu. Si Dieu nous dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau, mais en obéissant, en croyant justement à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, mais je suis en train d'obéir à la parole de Dieu. Et la dernière chose, c'est le timing. C'est le timing. Mais j'aimerais vous avertir que le timing de Dieu pour le salut, ce n'est pas comme dans la vie d'Abraham. C'est maintenant. Voici maintenant le temps favorable, dit la parole de Dieu. Voici maintenant le jour du salut. Alors la foi sans limite, quand nous sommes chrétiens, on focalise sur Dieu. Si nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus-Christ, une foi va focaliser sur le Seigneur avec tout cela qui va s'ensuivre. Alors voilà, élargissez votre cœur. Bonne résolution pour prendre, mais plus que cela, si vous faites cela, vous allez connaître dans votre vie une révolution. C'est garanti. C'est garanti. Un cœur élargi, un cœur qui dit maintenant en 2017, je veux marcher avec mon Seigneur. Je veux expérimenter ses voies, ses plans pour ma vie. Je veux justement exercer une foi, Seigneur, sans limite. Je focalise sur toi. Je crois en tes promesses. Je obéis à ta parole et j'attends ton timing. Et le Seigneur fera des grandes choses dans notre vie. Dieu voulant, nous allons voir la semaine prochaine, si nous sommes encore ici, comme quelqu'un a prié ce matin, Donique, on va être au ciel en 2017. En tout cas, on ne sait pas. Le timing de Dieu, ce n'est pas le nôtre. On va voir la grâce sans limite. Parce que ça aussi, ça fait partie d'un cœur élargi. Et cette fois-ci, on va focaliser, pas tellement sur la relation verticale, mais la relation horizontale. Et je peux vous dire, je parle moi-même, nous avons besoin dans nos relations les uns avec les autres de plus de grâce. Les uns avec les autres. On va prier. Seigneur, merci pour qui tu es, ce Dieu immuable, le Dieu qui ne ment point, le Dieu qui est digne de confiance. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons dire comme cet homme qui a dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Nous voulons, Seigneur, que tu nous prennes où nous, ce que nous sommes ce matin et que tu nous amènes, Seigneur, dans un nouveau chemin, dans une nouvelle direction, nos yeux fixés sur toi, pour obéir, Seigneur, pour croire, pour dépendre de toi. Merci que tu es le Dieu qui a des projets pour nous en 2017. Et Seigneur, ta parole nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors aide-nous, Seigneur, d'être des chrétiens qui manifestent une foi sans limite, parce que tu es digne d'une entière confiance de notre part. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, ma prière, c'est que tu puisses te révéler à cette personne. Ces personnes, et montre-leur, Seigneur, qui tu es, ta bonté, ta miséricorde, ta compassion, et qu'ils puissent commencer alors ce nouveau voyage avec toi. Un chemin où est-ce que la foi puisse accomplir des choses extraordinaires en cette personne et à travers cette personne, afin que ton nom soit glorifié. Et demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.